Chapitre 21. Le baron Montes de Monterranos était un lion, mais un lion inexpliqué. Le Paris de la fashion, celui du turf et des lorettes, admirait les gilets ineffables de ce seigneur étranger, ses bottes d'un vernis irréprochable, ses sticks incomparables, ses chevaux enviés, sa voiture menée par des nègres parfaitement esclaves et très bien battus. Sa fortune était connue. Il avait un crédit de 700 000 francs chez le célèbre banquier du Tillet, mais on le voyait toujours seul. S'il allait aux premières représentations, il était dans une stalle d'orchestre. Il ne hantait aucun salon. Il n'avait jamais donné le bras à une lorette. On ne pouvait unir son nom à celui d'aucune jolie femme du monde. Pour passe-temps, il jouait au whist au Jockey Club. On en était réduit à calomnier ses mœurs, ou ce qui paraissait infiniment plus drôle, sa personne. On l'appelait Combabus. Bixiou, Léon de Lora, Lousteau, Florine, Mademoiselle Héloïse Brisetout et Nathan, soupant un soir chez l'illustre Carabine avec beaucoup de lions et de lionnes, avaient inventé cette explication excessivement burlesque. Massol, en sa qualité de conseiller d'État, Claude Vignon, en sa qualité d'ancien professeur de grec, avait raconté aux ignorantes lorettes la fameuse anecdote, rapportée dans l'histoire ancienne de Rollin, concernant Combabus, cet abélard volontaire chargé de garder la femme d'un roi d'Assyrie, de Perse, Batriane, Mésopotamie et autres départements de la géographie particulière au vieux professeur du Bocage, qui continua d'Anville, le créateur de l'Ancien Orient. Ce surnom, qui fit rire pendant un quart d'heure les convives de Carabine, fut le sujet d'une foule de plaisanteries trop lestes dans un ouvrage auquel l'Académie pourrait ne pas donner le prix Montyon, mais parmi lesquels on remarqua le nom qui resta sur la crinière touffue du beau baron, que Josepha nommait un magnifique Brésilien, comme on dit un magnifique Catoxanta. Carabine, la plus illustre des lorettes, celle dont la beauté fine et les saillies avait arraché le sceptre du 13e arrondissement aux mains de Mademoiselle Turquet, plus connue sous le nom de Malaga, Mademoiselle Séraphine Ciné, tel était son vrai nom, était au banquier du Tillet, ce que Josepha Mira était au duc d'Hérouville. Or, le matin même du jour où la Sainte Estève prophétisait le succès à Victorin, Carabine avait dit à du Tillet, sur les 7 heures du matin, « Si tu étais gentil, tu me donnerais à dîner au rocher de Cancale, et tu m'amènerais Combabus. Nous voulons savoir enfin s'il a une maîtresse. J'ai parié pour, je veux gagner. » « Il est toujours à l'hôtel des princes, j'y passerai, » répondit du Tillet. « Nous nous amuserons. Et tous nos gars, le gars Bixiou, le gars Laura, enfin toute notre séquelle. » À 7h30, dans le plus beau salon de l'établissement où l'Europe entière a dîné, brillait sur la table un magnifique service d'argenterie, fait exprès pour les dîners où la vanité soldait l'addition en billets de banque. Des torrents de lumière produisaient des cascades au bord des ciselures. Des garçons, qu'un provincial aurait pris pour des diplomates, n'étaient l'âge, se tenaient sérieux comme des gens qui se savent ultra-payés. 5 personnes arrivées en attendaient 9 autres. C'était d'abord Bixiou, le sel de toute cuisine intellectuelle, encore debout en 1843, avec une armure de plaisanterie toujours neuve, phénomène aussi rare à Paris que la vertu. Puis Léon de Lora, le plus grand peintre de paysages et de marines existants, qui gardait sur tous ses rivaux l'avantage de ne jamais se trouver au-dessous de ses débuts. Les lorettes ne pouvaient pas se passer de ces 2 rois du bon mot. Pas de souper, pas de dîner, pas de partie sans eux. Séraphine Ciné, dite Carabine, en sa qualité de maîtresse en titre de l'amphitryon, était venue l'une des premières, et faisait resplendir sous les nappes de lumière ses épaules sans rivale à Paris, un cou tourné comme par un tourneur, sans un pli. Son visage mutin et sa robe de satin broché, bleu sur bleu, ornée de dentelles d'Angleterre, en quantité suffisante à nourrir un village pendant 1 mois. La jolie Jenny Cadine, qui ne jouait pas à son théâtre, et dont le portrait est trop connu pour en dire quoi que ce soit, arriva dans une toilette d'une richesse fabuleuse. Une partie, toujours pour ces dames, un long champ de toilettes, où chacune d'elles veut faire obtenir le prix à son millionnaire en disant à ses rivales « Voilà le prix que je vaux !» Une troisième femme, sans doute au début de la carrière, regardait presque honteuse le luxe des deux commères posées et riches. Simplement habillée en cachemire blanc orné de passementeries bleues, elle avait été coiffée en fleurs par un coiffeur du genre Merlan, dont la main malhabile avait donné, sans le savoir, les grâces de la niaiserie à des cheveux blonds adorables. Encore gênée dans sa robe, elle avait la timidité, selon la phrase consacrée, inséparable d'un premier début. Elle arrivait de Valognes pour placer à Paris une fraîcheur désespérante, une candeur à irriter le désir chez un mourant, et une beauté digne de toutes celles que la Normandie a déjà fournies aux différents théâtres de la capitale. Les lignes de cette figure intacte offraient l'idéal de la pureté des anges. Sa blancheur lactée renvoyait si bien la lumière que vous eussiez dit d'un miroir. Ses couleurs fines avaient été mises sur les joues comme avec un pinceau. Elle se nommait Cydalise. C'était, comme on va le voir, un pion nécessaire dans la partie que jouait Mame Nourrisson contre Madame Marneffe. « Tu n'as pas le bras de ton nom, ma petite !» avait dit Jenny Cadine, à qui Carabine avait présenté ce chef-d'œuvre âgé de 16 ans et amené par elle. Cydalise, en effet, offrait à l'admiration publique de beaux bras d'un tissu serré, grenu, mais rougi par un sang magnifique. « Combien vaut-elle ? » demanda Jenny Cadine tout bas à Carabine. « Un héritage. Qu'en veux-tu faire ? Tiens, Madame Combabus ! Et l'on te donne pour faire ce métier-là ? Devine ! Une belle argenterie ? J'en ai 3. Des diamants ? J'en vends ! Un singe vert ? Non, un tableau de Raphaël ! Quel rat te passe dans la cervelle ? Josépha me scie l'omoplate avec ses tableaux, répondit Carabine, et j'en veux avoir de plus beaux que les siens. Du Tillet amena le héros du dîner, le Brésilien. Le duc d'Hérouville les suivait avec Josépha. La cantatrice avait mis une simple robe de velours, mais autour de son cou brillait un collier de 120 000 francs, des perles à peine distinctibles sur sa peau de camélia blanc. Elle s'était fourrée dans ses nattes noires un seul camélia rouge, une mouche, d'un effet étourdissant, et elle s'était amusée à étager 11 bracelets de perles sur chacun de ses bras. Elle vint serrer les bras de Jenny Cadine, qui lui dit « Prête-moi donc tes mitaines !» Josépha détacha ses bracelets et les offrit, sur une assiette, à son amie. « Quel genre ! » dit Carabine. « Faut être duchesse ! Plus que cela de perles, vous avez dévalisé la mère pour orner la fille, monsieur le duc » ajouta-t-elle en se tournant vers le petit duc d'Hérouville. L'actrice prit un seul bracelet, rattacha les 20 autres aux beaux bras de la cantatrice et y mit un baiser. Lousteau, le pique-assiette littéraire, la Palférine et Malaga, Massol et Vauvinet, Théodore Gaillard, l'un des propriétaires d'un des plus importants journaux politiques, complétaient les invités. Le duc d'Hérouville, poli comme un grand seigneur avec tout le monde, eut pour le compte de la Palférine ce salut particulier qui, sans accuser l'estime ou l'intimité, dit à tout le monde « Nous sommes de la même famille, de la même race, nous nous valons ». Ce salut, le Cibolette de l'aristocratie, a été créé pour le désespoir des gens d'esprit de la haute bourgeoisie. Carabine prit Combabus à sa gauche et le duc d'Hérouville à sa droite. Cydalise flanqua le Brésilien et Bixiou fut mis à côté de la Normande. Malaga prit place à côté du duc. À 7 heures, on attaqua les huîtres. À 8 heures, entre les deux services, on dégusta le punch glacé. Tout le monde connaît le menu de ces festins. À 9 heures, on babillait comme on babille après 42 bouteilles de différents vins, bues entre 14 personnes. Le dessert, cet affreux dessert du mois d'avril, était servi. Cette atmosphère capiteuse n'avait grisé que la Normande, qui chantonnait un Noël. Cette pauvre fille exceptée, personne n'avait perdu la raison. Les buveurs, les femmes, étaient l'élite de Paris soupant. Les esprits riaient, les yeux, quoique brillantés, restaient pleins d'intelligence, mais les lèvres tournaient à la satire, à l'anecdote, à l'indiscrétion. La conversation, qui jusqu'alors avait roulé dans le cercle vicieux des courses et des chevaux, des exécutions à la bourse, des différents mérites des lions comparés les uns aux autres, et des histoires scandaleuses connues, menaçait de devenir intime, de se fractionner par groupes de deux cœurs. Ce fut en ce moment que, sur des œillades distribuées par carabine à Léon de Lora, Bixiou, La Palférine et Du Tillet, on parla d'amour. Les médecins comme il faut ne parlent jamais médecine, les vrais nobles ne parlent jamais ancêtres, les gens de talent ne parlent pas de leurs œuvres, dit Josepha. Pourquoi parler de notre état? J'ai fait faire relâche à l'opéra pour venir. Ce n'est pas certes pour travailler ici. Ainsi ne posons point, mes chers amis. On te parle du véritable amour, ma petite, dit Malaga, de cet amour qui fait qu'on s'enfonce, qu'on enfonce père et mère, qu'on vend femmes et enfants, et qu'on va d'à Clichy. Causez alors, reprit la cantatrice, connais pas. Connais pas. Ce mot, passé de l'argot des gamins de Paris dans le vocabulaire de la Lorette, est à l'aide des yeux et de la physionomie de ces femmes, tout un poème sur leurs lèvres. « Je ne vous aime donc point, Josepha ? » dit tout bas le duc. « Vous pouvez m'aimer véritablement, » dit à l'oreille du duc la cantatrice en souriant. « Mais moi, je ne vous aime pas de l'amour dont on parle, de cet amour qui fait que l'univers est tout noir sans l'homme aimé. Vous m'êtes agréable, utile, mais vous ne m'êtes pas indispensable. Et si, demain, vous m'abandonniez, j'aurai trois ducs pour un. Est-ce que l'amour existe à Paris ? Dit Léon de Lora. Personne n'y a le temps de faire sa fortune. Comment se livrerait-on à l'amour vrai qui s'empare d'un homme comme l'eau s'empare du sucre ? Il faut être excessivement riche pour aimer, car l'amour annule un homme, à peu près comme notre cher baron brésilien que voilà. Il y a longtemps que je l'ai déjà dit, les extrêmes se bouchent. Un véritable amoureux ressemble à un eunuque, car il n'y a plus de femme pour lui sur la terre. Il est mystérieux, il est comme le vrai chrétien, solitaire dans sa thébaïde. Voyez-moi ce brave brésilien. Toute la table examina Henri Montes de Montejanos, qui fut honteux de se trouver le centre de tous les regards. Il pâture là depuis une heure, sans plus savoir que ne le saurait un bœuf qu'il a pour voisine la femme la plus, je ne dirais pas ici la plus belle, mais la plus fraîche de Paris. « Tout est frais ici, même le poisson, c'est la renommée de la maison, » dit Carabine. Le baron Montes de Montejanos regarda le paysagiste d'un air aimable et dit « Très bien, je bois à vous. » Et il salua Léon de Lora d'un signe de tête, inclina son verre plein de vin de Porto et but magistralement. « Vous aimez donc, » dit Carabine à son voisin en interprétant ainsi le toast. Le baron brésilien fit encore remplir son verre, salua Carabine et répéta le toast. « À la santé de madame !» dit alors la Lorette d'un ton si plaisant que le paysagiste, Du Tillet et Bixiou partirent d'un éclat de rire. Le Brésilien resta grave comme un homme de bronze. Ce sang-froid irrita Carabine. Elle savait parfaitement que Montes aimait madame Marneff. Mais elle ne s'attendait pas à cette foi brutale, à ce silence obstiné de l'homme convaincu. On juge aussi souvent une femme d'après l'attitude de son amant, qu'on juge un amant sur le maintien de sa maîtresse. Fier d'aimer Valérie et d'être aimé d'elle, le sourire du baron offrait à ses connaisseurs émérites une teinte d'ironie, et il était d'ailleurs superbe à voir. Les vins n'avaient pas altéré sa coloration, et ses yeux brillants de l'éclat particulier à l'or bruni gardaient les secrets de l'âme. Aussi Carabine se dit-elle en elle-même, « Quelle femme ! Comme elle vous a cacheté ce cœur-là » « C'est un roc !» dit à demi-voix Bixiou, qui ne voyait là qu'une charge et qui ne soupçonnait pas l'importance attachée par Carabine à la démolition de cette forteresse. Pendant que ces discours, en apparence si frivoles, se disaient à la droite de Carabine, la discussion sur l'amour continuait à sa gauche, entre le duc d'Hérouville, Lousteau, Josepha, Jenny Cadine et Massol. On en était à chercher si ces rares phénomènes étaient produits par la passion par l'entêtement ou par l'amour. Josepha, très ennuyée de ces théories, voulut changer de conversation. « Vous parlez de ce que vous ignorez complètement. Y a-t-il un de vous qui ait assez aimé une femme, et une femme indigne de lui, pour manger sa fortune, celle de ses enfants, pour vendre son avenir, pour ternir son passé, pour encourir les galères en volant l'État, pour tuer un oncle et un frère, pour se laisser si bien bander les yeux qu'il n'ait pas pensé qu'on les lui bouchait afin de l'empêcher de voir le gouffre, ou pour dernière plaisanterie, on l'a lancé. Du Tillet a sous la mamelle gauche une caisse, Léon de Lorraille a son esprit, Bixiou rirait de lui-même s'il aimait une autre personne que lui, Massol a un portefeuille ministériel à la place du cœur, Lousteau n'a là qu'un viscère, lui qui a pu se laisser quitter par Madame de la Baudraye. Monsieur le Duc est trop riche pour pouvoir prouver son amour par sa ruine. Vauvinet ne compte pas. Je retranche l'escompteur du genre humain. Ainsi vous n'avez jamais aimé, ni moi non plus, ni Jenny, ni Carabine. Quant à moi, je n'ai vu qu'une seule fois le phénomène que je viens de décrire. C'est, dit-elle à Jenny Cadine, notre pauvre baron Hulot, que je vais faire afficher comme un chien perdu, car je veux le retrouver. Ah ça, se dit en elle-même Carabine, en regardant Josepha d'une certaine manière. Madame Nourrisson a donc deux tableaux de Raphaël que Josepha joue mon jeu. Pauvre homme, dit Vauvinet, il était bien grand, bien magnifique. Quel style, quelle tournure! Il avait l'air de François Ier. Quel volcan! Et quelle habileté! Quel génie il déployait pour trouver de l'argent! Là où il est, il en cherche, et il doit en extraire de ces murs faits avec des os qu'on voit dans les faubourgs de Paris, près des barrières, où sans doute il s'est caché. Et cela, dit Bixiou, pour cette petite Madame Marneff. En voilà-t-il une rouée ? Elle épouse mon ami Crevel, ajouta Du Tillet. Et elle est folle de mon ami Steinbock, dit Léon de Lora. Ces trois phrases furent trois coups de pistolet que Montès reçut en pleine poitrine. Il devint blême et souffrit tant qu'il se leva péniblement. Vous êtes des canailles, dit-il. Vous ne devriez pas mêler le nom d'une honnête femme au nom de toutes vos femmes perdues, ni surtout en faire une cible pour vos lazzis. Montès fut interrompu par des bravos et des applaudissements unanimes. Bixiou, Léon de Lora, Vauvinet, Du Tillet, Massol donnèrent le signal. Ce fut un chœur. « Vive l'empereur ! » dit Bixiou. « Qu'on le couronne ! » s'écria Vauvinet. « Un grognement pour Médor ! Hourra pour le Brésil ! » cria Lousteau. « Ah, baron cuivré, tu aimes notre Valérie !» dit Léon de Lora. « Tu n'es pas dégoûté ?» « Ce n'est pas parlementaire, ce qu'il a dit, mais c'est magnifique !» fit observer Massol. « Mais, mon amour de client, tu m'es recommandé, je suis ton banquier, ton innocence va me faire du tort. »« Ah, dites-moi, vous qui êtes un homme sérieux !» demanda le Brésilien à Du Tillet. « Merci pour nous tous !» fit Bixiou qui salua. « Dites-moi quelque chose de positif !» ajouta Montès sans prendre garde aux mots de Bixiou. « Ah ça !» reprit Du Tillet, « j'ai l'honneur de te dire que je suis invité à la noce de Crevel. »« Ah, Combabus prend la défense de Madame Marneff !» dit Josepha qui se leva solennellement. Elle alla d'un air tragique jusqu'à Montès, elle lui donna sur la tête une petite tape amicale, elle le regarda pendant un instant, en laissant voir sur sa figure une admiration comique, et hocha la tête. Hulot est le premier exemple de l'amour quand même. « Voilà le second, » dit-elle, « mais il ne devrait pas compter, car il vient des tropiques. » Au moment où Josepha frappa doucement le front du Brésilien, Montès retomba sur sa chaise et s'adressa par un regard à Du Tillet. « Si je suis le jouet d'une de vos plaisanteries parisiennes, » lui dit-il, « si vous avez voulu m'arracher mon secret !» Et il enveloppa la table entière d'une ceinture de feu, embrassant tous les convives d'un coup d'œil où flamba le soleil du Brésil. « Par grâce, avouez-le-moi » reprit-il d'un air suppliant et presque enfantin, « mais ne calomniez pas une femme que j'aime !» Ah ça, lui répondit Carabine à l'oreille, mais si vous étiez indignement trahi, trompé, joué par Valérie, et que je vous en donnasse les preuves, dans une heure, chez moi, que feriez-vous?
Je ne puis pas vous le dire ici, devant tous ces yagos, dit le baron brésilien.
Carabine entendit Magot.
Eh bien, taisez-vous, lui répondit-elle en souriant. Ne prêtez pas à rire aux hommes les plus spirituels de Paris, et venez chez moi, nous causerons.
Montès était anéanti.
Des preuves, dit-il en balbutiant. Songez.
Tu en auras trop, répondit Carabine, et puisque le soupçon te porte autant à la tête, j'ai peur pour ta raison.
Est-il entêté, cet être-là? C'est Piquefeu le roi de Hollande. Voyons, Lousteau, Bixiou, Massol, Ohé, les autres. N'êtes-vous pas invités tous à déjeuner par Madame Marneffe après-demain?
Demanda Léon de Laura.
Ya, répondit Du Tillet, j'ai l'honneur de vous répéter, baron, que si vous aviez par hasard l'intention d'épouser Madame Marneffe, vous êtes rejeté comme un projet de loi par une boule du nom de Crevel. Mon ami, mon ancien camarade, Crevel a 80 000 livres de rente, et vous n'en avez pas probablement fait voir autant, car alors vous eussiez été, je le crois, préféré.
Montès écouta d'un air à demi-rêveur, à demi-souriant, qui parut terrible à tout le monde. Le premier garçon vint dire en ce moment à l'oreille de Carabine qu'une de ses parentes était dans le salon et désirait lui parler. La Lorette se leva, sortit, et trouva Madame Nourrisson sous les voiles de dentelle noire.
« Eh bien, dois-je aller chez toi, ma fille ? » a-t-il mordu.
« Oui, ma petite mère, le pistolet est si bien chargé que j'ai peur qu'il n'éclate, » répondit Carabine. Une heure après, Montès, Cydalise et Carabine, revenus du rocher de Cancale, entraient rue Saint-Georges dans le petit salon de Carabine. La Lorette vit Madame Nourrisson assise sur une bergère, au coin du feu.
« Tiens, voilà ma respectable tante, » dit-elle. « Oui, ma fille, c'est moi qui viens chercher moi-même ma petite rente. Tu m'oublierais, quoique tu aies bon cœur, et j'ai demain des billets à payer. Une marchande à la toilette, c'est toujours gêné. Qu'est-ce que tu traînes donc après toi? Ce monsieur a l'air d'avoir bien du désagrément. »
L'affreuse Madame Nourrisson, dont en ce moment la métamorphose était complète et qui semblait être une bonne vieille femme, se leva pour embrasser Carabine, une des cent et quelques lorettes qu'elle avait lancées dans l'horrible carrière du vice.
« C'est un Othello qui ne se trompe pas et que j'ai l'honneur de te présenter, monsieur le baron Montès de Monterranos.
Oh, je connais monsieur pour en avoir beaucoup entendu parler. On vous appelle Combabus parce que vous n'aimez qu'une femme. »
C'est à Paris comme si l'on n'en avait pas du tout.
Eh bien, s'agirait-il par hasard de votre objet, de Madame Marneffe, la femme à Crevel?
Tenez, mon cher monsieur, bénissez votre sort au lieu de l'accuser. C'est une rien du tout, cette petite femme-là. Je connais ses allures.
Ah bah, dit Carabine, à qui Madame Nourrisson avait glissé dans la main une lettre en l'embrassant. Tu ne connais pas les Brésiliens? C'est des crânes qui tiennent à 100 palets par le cœur. Tant plus ils sont jaloux, tant plus ils veulent l'être. Monsieur parle de tout massacrer, et il ne massacrera rien, parce qu'il aime. Enfin, je te ramène ici, monsieur le baron, pour lui donner les preuves de son malheur que j'ai obtenu de ce petit Steinbock.
Montès était ivre, il écoutait comme s'il ne s'agissait pas de lui-même.
Carabine alla se débarrasser de son crispin en velours, et lut le fac-similé du billet suivant.
« Mon chat, il va ce soir dîner chez Popinot, et viendra me chercher à l'opéra sur les 11 heures. Je partirai sur les 5 heures et demie, et compte te trouver à notre paradis, où tu feras venir à dîner de la Maison d'Or. Habille-toi de manière à pouvoir me ramener à l'opéra. Nous aurons 4 heures à nous. Tu me rendras ce petit mot, non pas que ta Valérie se défie de toi. Je te donnerai ma vie, ma fortune et mon honneur. Mais je crains les farces du hasard.
Tiens, baron, voilà le poulet envoyé ce matin au comte de Steinbock. Lis l'adresse. L'original vient d'être brûlé.
Montès tourna, retourna le papier, reconnut l'écriture et fut frappé d'une idée juste, ce qui prouve combien sa tête était dérangée.
Ah ça, dans quel intérêt me déchirez-vous le cœur? Car vous en avez acheté bien cher le droit d'avoir ce billet pendant quelque temps entre les mains, pour le faire lithographier, dit-il en regardant Carabine.
Grand imbécile, dit Carabine à un signe de Madame Nourrisson, ne vois-tu pas cette pauvre Cydalise, une enfant de 16 ans qui t'aime depuis 3 mois à en perdre le boire et le manger, et qui se désole de n'avoir pas encore obtenu le plus distrait de tes regards?
Cydalise se mit un mouchoir sur les yeux et eut l'air de pleurer. Elle est furieuse, malgré son air de sainte Nitouche, de voir que l'homme dont elle est folle est la dupe d'une scélérate, dit Carabine en poursuivant. Et elle tuerait Valérie.
Oh, ça, dit le Brésilien, ça me regarde.
Tuer, toi, mon petit, dit la nourrisson, ça ne se fait plus ici.
Oh, reprit Montès. Je ne suis pas de ce pays-ci, moi. Je vis dans une capitainerie où je me moque de vos lois, et si vous me donnez des preuves...
Ah ça, ce billet, ce n'est donc rien.
Non, dit le Brésilien, je ne crois pas à l'écriture. Je veux voir.
Oh, voir, dit Carabine, qui comprit à merveille un nouveau geste de sa fausse tante.
Mais on te fera tout voir, mon cher tigre. À une condition.
Laquelle?
Regardez Cydalise. Sur un signe de Madame Nourrisson, Cydalise regarda tendrement le Brésilien.
L'aimeras-tu? Lui feras-tu son sort? Demanda Carabine.
Une femme de cette beauté-là, ça vaut un hôtel et un équipage. Ce serait une monstruosité que de la laisser à pied. Et elle a des dettes. Que dois-tu? Fit Carabine en pinçant le bras de Cydalise.
Elle vaut ce qu'elle vaut, dit la nourrisson. Suffit qu'il y a marchand.
Écoutez, s'écria Montès en apercevant enfin cet admirable chef-d'œuvre féminin.
Vous me ferez voir Valérie.
Et le comte de Steinbock, parbleu, dit Madame Nourrisson.
Depuis 10 minutes, la vieille observait le Brésilien. Elle vit en lui l'instrument monté au diapason du meurtre dont elle avait besoin. Elle le vit surtout assez aveuglé pour ne plus prendre garde à ceux qui le menaient, et elle intervint.
« Cydalise, mon chéri du Brésil, est ma nièce, et l'affaire me regarde un peu. Toute cette débâcle, c'est l'affaire de 10 minutes, car c'est une de mes amies qui loue au comte de Steinbock la chambre garnie où ta Valérie prend en ce moment son café. Un drôle de café, mais elle appelle cela son café. « Donc, entendons-nous, Brésil. J'aime le Brésil, c'est un pays chaud. Quel sera le sort de ma nièce ?»«
Vieille autruche !» dit Montès, frappé des plumes que la nourrisson avait sur son chapeau. « Tu m'as interrompu. Si tu me fais voir Valérie et cet artiste ensemble !»«
Comme tu voudrais être avec elle, » dit Carabine, « c'est entendu. »«
Eh bien, je prends cette Normande et la mène.
Où ?» demanda la Carabine.
« Au Brésil !» répondit le baron. « J'en ferai ma femme. Mon oncle m'a laissé 10 lieues carrées de pays invendable. Voilà pourquoi je possède encore cette habitation. J'y ai 100 nègres. Rien que des nègres. Des négresses et des négrillons achetés par mon oncle. »
« Le neveu d'un négrier ?» dit Carabine en faisant la moue. « C'est à considérer. Cydalise, mon enfant, est une négrophile. »
« Ah ça, ne blaguons plus, Carabine, » dit la nourrisson. « Que diable, nous sommes en affaire, monsieur et moi. »« Si je me redonne une Française, je la veux tout à moi, » reprit le Brésilien. « Je vous en préviens, mademoiselle. Je suis un roi, mais pas un roi constitutionnel. Je suis un tsar. J'ai acheté tous les sujets, et personne ne sort de mon royaume, qui se trouve à 100 lieues de toute habitation. » Il est bordé de sauvages du côté de l'intérieur et séparé de la côte par un désert grand comme votre France.
« J'aime mieux une mansarde ici, » dit Carabine.
« C'est ce que je pensais, » répliqua le Brésilien, « puisque j'ai vendu toutes mes terres et tout ce que je possédais à Rio de Janeiro pour venir retrouver Madame Marneffe. »
« On ne fait pas ces voyages-là pour rien, » dit Madame Nourrisson. Vous avez le droit d'être aimé pour vous-même, étant surtout très beau.
« Oh, il est beau !» dit-elle à Carabine.
« Très beau, plus beau que le postillon de Longjumeau !»
répondit la Lorette. Cydalise prit la main du Brésilien, qui se débarrassa d'elle le plus honnêtement possible.
« J'étais revenu pour enlever, madame Marneff, » reprit le Brésilien en reprenant son argumentation. « Et vous ne savez pas pourquoi j'ai mis 3 ans à revenir ?»«
Non, sauvage, » dit Carabine.
« Eh bien, elle m'avait tant dit qu'elle voulait vivre avec moi, seule dans un désert. »
« Ce n'est plus un sauvage, » dit Carabine en partant d'un éclat de rire. « Il est de la tribu des Jobards civilisés. »
« Elle me l'avait tant dit, » reprit le baron, insensible aux railleries de la Lorette, « que j'ai fait arranger une habitation délicieuse au centre de cette immense propriété. Je reviens en France chercher Valérie, et la nuit où je l'ai revue. »«
Revue et décent, » dit Carabine. « Je retiens le mot. »
Elle m'a dit d'attendre la mort de ce misérable Marneff, et j'ai consenti, tout en lui pardonnant d'avoir accepté les hommages de Hulot. Je ne sais pas si le diable a pris des jupes, mais cette femme, depuis ce moment, a satisfait à tous mes caprices, à toutes mes exigences. Enfin, elle ne m'a pas donné lieu de la suspecter pendant une minute.
« Ça, c'est très fort, » dit Carabine à madame Nourrisson. Madame Nourrisson hocha la tête en signe d'assentiment.
Ma foi en cette femme, dit Montès en laissant couler ses larmes, égale mon amour. J'ai failli souffleter tout le monde à table tout à l'heure.
Je l'ai bien vu, dit Carabine.
Si je me suis trompé, si elle se marie, et si elle est en ce moment dans les bras de Steinbock, cette femme a mérité 1000 morts, et je la tuerai comme on écrase une mouche.
« Et les gendarmes, mon petit ?» dit madame Nourrisson avec un sourire de vieille qui donnait chair de poule. « Et le commissaire de police, et les juges, et la cour d'assises, et tout le tremblement ?» dit Carabine.
« Vous êtes un fat, mon cher, » reprit madame Nourrisson, qui voulait connaître les projets de vengeance du Brésilien. « Je la tuerai !» répéta froidement le Brésilien. « Ah ça, vous m'avez appelé sauvage !» Est-ce que vous croyez que je vais imiter la sottise de vos compatriotes qui vont acheter du poison chez les pharmaciens? J'ai pensé, pendant le temps que vous avez mis à venir chez vous, à ma vengeance, dans le cas où vous auriez raison contre Valérie. L'un de mes nègres porte avec lui le plus sûr des poisons animaux, une terrible maladie qui vaut mieux qu'un poison végétal et qui ne se guérit qu'au Brésil. Je la fis prendre à Cydalise, qui me la donnera. Puis quand la mort sera dans les veines de Crevel et de sa femme, je serai par-delà les Açores avec votre cousine que je ferai guérir et que je prendrai pour femme. Nous autres sauvages, nous avons nos procédés. Cydalise, dit-il en regardant la Normande, et la bête qu'il me faut, que doit-elle?
100 000 francs, dit Cydalise. Elle parle peu, mais bien, dit à voix basse Carabine à madame Nourrisson.
« Je deviens fou !» s'écria d'une voix creuse le Brésilien en retombant sur une causeuse. « J'en mourrai, mais je veux voir, car c'est impossible, un billet lithographié qui me dit que ce n'est pas l'œuvre d'un faussaire. Le baron Hulot aimait Valérie, » dit-il en se rappelant le discours de Josepha. « Mais la preuve qu'il ne l'aimait pas, c'est qu'elle existe. Moi, je ne la laisserai vivante à personne, si elle n'est pas toute à moi. »
Montès était effrayant à voir et plus effrayant à entendre. Il rugissait, il se tordait, tout ce qu'il touchait était brisé, le bois de palissandre semblait être du verre. « Comme il casse !» dit Carabine en regardant Nourrisson. « Mon petit, » reprit-elle en donnant une tape au Brésilien, « Roland furieux fait très bien dans un poème, mais dans un appartement c'est prosaïque et cher. « Mon fils !» dit la Nourrisson en se levant et allant se poser en face du Brésilien abattu. « Je suis de ta religion. Quand on aime d'une certaine façon, qu'on s'est agrafé à mort, la vie répond de l'amour. Celui qui s'en va arrache tout, quoi. C'est une démolition générale. Tu as mon estime, mon admiration, mon consentement, surtout pour ton procédé qui va me rendre négrophile. Mais tu aimes, tu reculeras.
Moi, si c'est une infâme, je...
« Voyons, tu causes trop à la fin des fins, » reprit la Nourrisson, redevenant elle-même. « Un homme qui veut se venger
et qui se dit sauvage à procéder se conduit autrement. Pour qu'on te fasse voir ton objet dans son paradis, il faut prendre 6 dalises et avoir l'air d'entrer là par suite d'une erreur de bonne avec ta particulière, mais pas d'esclandre. Si tu veux te venger, il faut caponner, avoir l'air d'être au désespoir et te faire rouler par ta maîtresse.
« Ça y est-il ? » dit Madame Nourrisson en voyant le Brésilien surpris d'une machination si subtile.
« Allons, l'autruche ! » répondit-il. « Allons, je comprends. »
« Adieu, mon bichon !» dit Madame Nourrisson à Carabine. Elle fit signe à Cydalise de descendre avec Montès et resta seule avec Carabine.
« Maintenant, ma mignonne, je n'ai peur que d'une chose, c'est qu'il l'étrangle. Je serai dans de mauvais draps. Il ne nous faut que des affaires en douceur. Oh, je crois que tu as gagné ton tableau de Raphaël, mais on dit que c'est un mignard. Sois tranquille, c'est beaucoup plus beau. L'on m'a dit que les Raphaëls étaient tout noirs, tandis que celui-là, c'est gentil comme un Girodé.
Je ne tiens qu'à l'emporter sur Josépha, s'écria Carabine, et ça m'est égal que ça soit avec un mignard ou avec un Raphaël. Non, cette voleuse avait des perles ce soir, on se damnerait pour. »
Cydalise, Montès et Madame Nourrisson montèrent dans un fiacre qui stationnait à la porte de Carabine. Madame Nourrisson indiqua tout bas au cocher une maison du pâté des Italiens où l'on serait arrivé dans quelques instants, car de la rue Saint-Georges, la distance est de 7 à 8 minutes, mais Madame Nourrisson ordonna de prendre par la rue Lepelletier et d'aller très lentement, de manière à passer en revue les équipages stationnés.
« Brésilien, dit la nourrisson, vois à reconnaître les gens et la voiture de ton ange. »
Le baron montra du doigt l'équipage de Valérie au moment où le fiacre passa devant.
« Elle a dit à ses gens de venir à 10 heures, et elle s'est fait conduire en fiacre, à la maison où elle est avec le comte Steinbock. Elle y a dîné, et elle viendra dans une demi-heure à l'opéra. C'est bien travaillé, » dit Madame Nourrisson. « Cela t'explique comment elle peut avoir attrapé si longtemps. »
Le Brésilien ne répondit pas. Métamorphosé en tigre, il avait repris le sang-froid imperturbable tant admiré pendant le dîner. Enfin, il était calme comme un failli, le lendemain du bilan déposé. À la porte de la fatale maison, stationnait une citadine à 2 chevaux, de celle qui s'appelle Compagnie Générale, du nom de l'entreprise. « Reste dans ta boîte, » dit Madame Nourrisson à Montès. « On n'entre pas ici comme dans un estaminet. On viendra vous chercher. »
Le paradis de Madame Marneffe et de Venceslas ne ressemblait guère à la petite maison Crevel que Crevel avait vendue au comte Maxime de Trailles, car dans son opinion, elle devenait inutile. Ce paradis, le paradis de bien du monde, consistait en une chambre située au 4e étage et donnant sur l'escalier, dans une maison sise au pâté des Italiens. À chaque étage, il se trouvait dans cette maison, sur chaque palier, une chambre autrefois disposée pour servir de cuisine à chaque appartement. Mais la maison étant devenue une espèce d'auberge louée aux amours clandestins à des prix exorbitants, la principale locataire, la vraie Madame Nourrisson, marchande à la toilette rue Neuve-Saint-Marc, avait jugé sainement de la valeur immense de ses cuisines en en faisant des espèces de salles à manger. Chacune de ces pièces, flanquée de 2 gros murs mitoyens, éclairés sur la rue, se trouvait totalement isolée, au moyen de portes battantes très épaisses qui faisaient une double fermeture sur le palier. On pouvait donc causer de secrets importants en dînant sans courir le risque d'être entendu. Pour plus de sûreté, les fenêtres étaient pourvues de persiennes au dehors et de volets en dedans. Ces chambres, à cause de leur particularité, coûtaient 300 francs par mois. Cette maison, grosse de paradis et de mystère, était louée 24 000 francs à Madame Nourrisson première, qui en gagnait 20 000, bon an mal an, sa gérante, Madame Nourrisson deuxième, payée, car elle n'administrait point par elle-même. Le paradis loué au comte Steinbock avait été tapissé de perse. La froideur et la dureté d'un ignoble carreau rougi d'encaustique ne se sentaient plus aux pieds sous un moelleux tapis. Le mobilier consistait en 2 jolies chaises et un lit dans une alcôve, alors à demi caché par une table chargée des restes d'un dîner fin
et où deux bouteilles à long bouchon et une bouteille de vin de champagne éteinte dans sa glace jalonnaient les champs de Bacchus cultivés par Vénus. Envoyé sans doute par Valérie, un bon fauteuil ganache à côté d'une chauffeuse et une jolie commode en bois de rose avec sa glace bien encadrée en style Pompadour. Une lampe au plafond donnait un demi-jour accru par les bougies de la table et par celles qui décoraient la cheminée. Ce croquis peindra, urbi et orbi, l'amour clandestin dans les mesquines proportions qui impriment le Paris de 1840. À quelle distance est-on, hélas, de l'amour adultère symbolisé par les filets de Vulcain il y a 3000 ans. Au moment où Cydalise et le baron montaient, Valérie, debout devant la cheminée où brûlait une falourde, se faisait lasser par Venceslas. C'est le moment où la femme qui n'est ni trop grasse ni trop maigre, comme était la fine, l'élégante Valérie, offre des beautés surnaturelles. La chair rosée, à teintes moites, sollicite un regard des yeux les plus endormis. Les lignes du corps, alors si peu voilées, sont si nettement accusées par les plis éclatants du jupon et par le bassin du corset, que la femme est irrésistible comme tout ce qu'on est obligé de quitter. Le visage heureux et souriant dans le miroir, le pied qui s'impatiente, la main qui va réparant le désordre des boucles de la coiffure mal reconstruite, les yeux où déborde la reconnaissance, puis le feu du consentement qui, semblable à un coucher de soleil, embrase les plus menus détails de la physionomie, tout de cette heure en fait une mine à souvenir. Certes, quiconque jetant un regard sur les premières erreurs de sa vie y reprendra quelques-uns de ces délicieux détails, comprendra peut-être, sans les excuser, les folies des hulots et des crevelles. Les femmes connaissent si bien leur puissance en ce moment qu'elles y trouvent toujours ce qu'on peut appeler le regain du rendez-vous. Allons donc, après 2 ans, tu ne sais pas encore lasser une femme. Tu es aussi par trop polonais. Voilà 10 heures, mon Venceslas, dit Valérie en riant. En ce moment, une méchante bonne fit adroitement sauter, avec la lame d'un couteau, le crochet de la porte battante qui faisait toute la sécurité d'Adam et Ève. Elle ouvrit brusquement la porte, car les locataires de ces Édens ont tous peu de temps à eux, et découvrit un de ces charmants tableaux de genre, si souvent exposés au salon d'après Gavarni. « Ici, madame !» dit la fille, et Cydalise entra, suivie du baron Montès. « Mais il y a du monde ! Excusez, madame !» dit la Normande effrayée. « Comment ? Mais c'est Valérie !» s'écria Montès, qui ferma la porte violemment. Madame Marneffe, en proie à une émotion trop vive pour être dissimulée, se laissa tomber sur une chauffeuse au coin de la cheminée. Deux larmes roulèrent dans ses yeux et se séchèrent aussitôt. Elle regarda Montès, aperçut la Normande et partit d'un éclat de rire forcé. La dignité de la femme offensée effaça l'incorrection de sa toilette inachevée. Elle vint au Brésilien et le regarda si fièrement que ses yeux étincelèrent comme des armes. « Voilà donc, dit-elle en venant se poser devant le Brésilien et lui montrant Cydalise, de quoi est doublée votre fidélité. Vous, qui m'avez fait des promesses à convaincre une athée en amour, vous pour qui je faisais tant de choses, et même des crimes. Vous avez raison, monsieur, je ne suis rien auprès d'une fille de cet âge et de cette beauté. Je sais ce que vous allez me dire, reprit-elle en montrant Venceslas dont le désordre était une preuve trop évidente pour être niée. Ceci me regarde. Si je pouvais vous aimer après cette trahison infâme, car vous m'avez espionné, vous avez acheté chaque marche de cet escalier, et la maîtresse de la maison, et la servante, et reine peut-être. Oh, que tout cela est beau! Si j'avais un reste d'affection pour un homme si lâche, je lui donnerais des raisons de nature à redoubler l'amour. Mais je vous laisse, monsieur, avec tous vos doutes, qui deviendront des remords. Venceslas, ma robe. Elle prit sa robe, la passa, s'examina dans le miroir, et acheva tranquillement de s'habiller sans regarder le Brésilien, absolument comme si elle était seule. « Venceslas, êtes-vous prêt? Allez devant !»
Elle avait du coin de l'œil et dans la glace espionné la physionomie de Montès. Elle crut retrouver dans sa pâleur des indices de cette faiblesse qui livre ces hommes si forts à la fascination de la femme. Elle le prit par la main en s'approchant assez près de lui pour qu'il pût respirer ces terribles parfums aimés dont se grisent les amoureux, et le sentant palpiter, elle le regarda d'un air de reproche. « Je vous permets d'aller raconter votre expédition à M. Crevel. Il ne vous croira jamais. Aussi ai-je le droit de l'épouser. Il sera mon mari après-demain, et je le rendrai bien heureux. Adieu, tâchez de m'oublier. »
« Ah, Valérie !» s'écria Montès en la serrant dans ses bras. « C'est impossible ! Viens au Brésil !»
Valérie regarda le baron et retrouva son esclave.
« Ah, si tu m'aimais toujours, Henri, dans 2 ans, je serai ta femme. Mais ta figure en ce moment me paraît bien sournoise. »
« Je te jure qu'on m'a grisé, que de faux amis m'ont jeté cette femme sur les bras et que tout ceci est l'œuvre du hasard, » dit Montès.
« Je pourrais donc encore te pardonner, » dit-elle en souriant.
« Et te marieras-tu toujours ?»
demanda le baron, en proie à une navrante anxiété.
« 80 000 francs de rente, »
dit-elle avec un enthousiasme à demi comique, « et Crevel même tant qu'il en mourra. »
« Ah, je te comprends, » dit le Brésilien.
« Eh bien, dans 2 jours, nous nous entendrons, » dit-elle, et elle descendit triomphante.
« Je n'ai plus de scrupules, » pensa le baron, qui resta planté sur ses jambes pendant un moment. « Comment cette femme pense à se servir de son amour pour se débarrasser de cet imbécile, comme elle comptait sur la destruction de Marnef ? Je serai l'instrument de la colère divine. »